infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, manipulateurs radio, ils nous accompagnent dans les épreuves, mais aussi dans les plus beaux moments de la vie. À travers une série de podcasts, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers leur donne la parole. Ces femmes et ces hommes racontent les fragments d'un quotidien au cœur de l'hôpital. Quels moments ravivent leur vocation? Quels patients les ont marqués? Bienvenue dans Histoire d'Hospitalier, la série de podcasts de la MNH, réalisée en partenariat avec Chérie FM.
Moi, c'est Camille, j'ai 21 ans et je viens d'être diplômée infirmière d'État depuis juillet. Du coup, moi, mon histoire, elle se déroule en août 2022. Donc, moi, j'arrive dans mon service de chirurgie. Je suis jeune diplômée. C'est vraiment ma première expérience professionnelle non encadrée, non surveillée. Je suis maître de ma situation. C'est vrai que ma plus grosse peur à ce moment-là, c'est comment va être l'équipe. Parce que l'équipe, ça fait vraiment tout. Et j'ai beaucoup de chance, je tombe sur une équipe qui est très bienveillante, très patiente, qui commence à m'encadrer comme une professionnelle, la professionnelle que je suis, et qui prend patience du coup à m'expliquer les choses pour que je sois bien accomplie dans tous mes gestes. Donc je suis en chirurgie générale, c'est vraiment l'avant et l'après le bloc. C'est des patients qui restent plus ou moins longtemps selon la typologie de chirurgie qui a été faite et de soins qui est nécessaire et selon leur état stable ou non. Moi, je commence mon premier jour le 2 août 2022, doublé donc avec une infirmière beaucoup plus expérimentée que moi. Et vraiment, elle m'explique tout de A à Z. Et la semaine d'après, on m'apprend que je suis toute seule. On saute dans le grand bain. Là, t'es vraiment lâchée. Bon, t'as toujours un filet de sécurité. Je suis jamais seule dans mon service. J'ai toujours une deuxième infirmière avec moi. Mais voilà, c'est mes patients. L'autre infirmière a déjà les siens. Elle en a déjà 12. Moi, je dois en avoir 10. Et donc, c'est à moi de prendre les choses en main et d'y aller. Et je me souviens que ma première journée toute seule, il y avait encore beaucoup de choses que je savais pas faire, donc je me souviens avoir pris un temps immense la première journée. J'étais très très fatiguée, j'étais épuisée à la fin. Donc on finit par les transmissions, je me dis bon allez, demain ça sera mieux. Je fais ma première semaine toute seule avec plus ou moins de difficultés. J'entame ma deuxième semaine déjà un peu plus sereine et je découvre ce patient-là. Un patient qui s'est fait opérer quelques jours plus tôt pour une péritonite par rapport à un abcès pelvien. La péritonite, c'est l'inflammation du péritoine qui se situe à peu près au niveau de l'abdomen. Ça se soigne très bien en général, mais lui, du coup, on va voir que ça se soigne pas un peu plus compliqué que ça. Alors moi, du coup, j'ai toujours eu des patients qui allaient, entre guillemets, bien. Leur post-op se passait toujours bien, il n'y avait pas de problème particulier, de légère tachycardie de temps en temps, de le pouls qui est un peu trop élevé. Mais sinon, à part ça, plutôt bien. Jamais rien de trop grave. Donc là, je tombe sur ce patient-là. Un de mes premiers patients qui a un post-op qui n'est pas terrible et on sent que la prise en charge va être un peu plus lourde. Donc moi je suis sur un quart du soir la première fois où je le rencontre. Donc je commence à 13h30, je fais mes transmissions, je récupère mes traitements et je commence mon tour de l'après-midi, donc vers 15h. Et lui c'est la chambre 1 au tout début du service, donc une chambre seule, qui n'est pas toujours le cas, des fois c'est les chambres doubles, mais lui c'est une chambre seule. C'est une des plus grandes chambres du service. Donc là je rentre dans la chambre, je vois avant même de dire quoi que ce soit que ça va pas trop être ça, je m'approche et en fait c'est ça, il ouvre à peine les yeux, il est un peu branché de partout, il a une perfusion dans le bras, il a de l'alimentation parentérale. La personne ne peut pas manger directement. Il a aussi une sape, ce qu'on appelle de l'acupan, c'est un antalgique, donc pour le soulager en continu. C'est un monsieur en plus qui a de l'oxygène, donc ça veut dire que sa respiration, si elle n'est pas assistée, n'est pas suffisante pour le maintenir en vie. Et juste le fait qu'il soit gris, on sent que l'apport en oxygène, il n'est pas top top. Donc il a le fil de la perfusion, le fil de l'oxygène, le fil de la sonde urinaire. Et le monsieur, il n'est pas bien quoi. Et on comprend que la mobilisation, donc le fait de se lever ou même de s'asseoir, ça va être très très compliqué. Donc je fais ma surveillance complète, j'explique ce que je fais à chaque fois, mais pas de réponse, il ouvre pas les yeux, il se laisse faire. Je lui demande s'il a mal, j'ai à peine un grognement d'un air de dire oui, c'est le maximum que je reçois de sa part. Donc quand je sors, je garde la porte de cette chambre ouverte, parce que l'avantage c'est que si on passe devant et que si le patient n'est pas bien, on le voit tout de suite. Parce que j'ai même peur à ce moment-là qu'il n'ait pas assez de force pour appuyer sur la sonnette pour nous appeler. Comme ça, je me dis, si jamais il se passe quelque chose, si jamais il a besoin d'aide ou quoi que ce soit, je suis dans les alentours. Donc l'intervention, elle était assez, pas forcément lourde, mais assez importante quand même, parce que du coup, il y a eu un gros travail au bloc opératoire d'évacuation de cet abcès qui était déjà assez important. Donc voilà, c'est tout ça aussi qui joue dans cet état de faiblesse. Il a trop mal, il est trop mal en point et faible pour se lever de lui-même. On sent qu'il est absolument pas autonome dans ses gestes et qu'on doit vraiment l'aider sur tout ça. Du coup, à partir du moment où je le vois pour cette première fois, je l'accompagne par la suite parce que je suis attribuée à ce secteur pendant un petit moment. Donc il reste bien un mois comme ça dans sa chambre à ne pas bouger. Je ne le vois pas sortir de son lit. Au niveau clinique, il se stabilise, mais on ne voit pas de franche amélioration. Donc on voit bien que ça stagne un petit peu. Donc nous, auprès de lui, on est vraiment une équipe. Il y a les infirmières, donc, dont moi, qui s'occupent de tout ce qui est soins. On lui répond, on lui apporte des antalgiques, beaucoup d'hydratation, tout ce qu'il a besoin, on est là. Et les aides-soignantes qui sont très 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 présentes pour lui aussi. Il y a aussi les kinésithérapeutes qui sont très présents tous les matins, tous les soirs pour refaire des exercices de mobilisation. Il y a aussi les ASH qu'il ne faut pas oublier, les personnes qui font le bio-nettoyage, donc tout le nettoyage des surfaces dans les chambres, qui ont un côté relationnel aussi qu'il ne faut pas négliger parce que le patient, il les voit tous les jours, il communique avec eux tous les jours. Elles font aussi partie de l'équipe et elles sont là. Et à ce moment-là, l'équipe décide de prévenir sa fille, qui est considérée comme sa personne de confiance dans nos papiers. Et par la suite, mes collègues la contactent pour lui dire justement l'évolution de son état. Et lui demande justement, parce que c'est vrai que le monsieur, il a très rarement des visites, donc lui demande si elle compte venir le voir, si elle est à distance. C'est vrai que parfois les familles peuvent être un peu dispersées dans les quatre coins de la France, mais il se trouve qu'elle habite dans la même ville que l'hôpital. Donc on lui dit que de toute façon, c'est à elle de décider si elle vient, mais que si elle vient, ça serait très bénéfique pour la prise en charge. Son état se dégrade au bout d'un moment, malheureusement, parce que, en fait, au niveau de son abcès pelvien, tout n'est pas totalement évacué, ce qui provoque un syndrome inflammatoire. Le syndrome inflammatoire, du coup, il est assez important, et au niveau des bilans sanguins, c'est totalement perturbé, on sent qu'il n'est pas bien et que c'est pas terrible. On est un vendredi soir, tout l'après-midi, il a vraiment pas du tout été bien. On a appelé plusieurs fois le chirurgien pour qu'il le voie. Je pars le vendredi soir pour des repos et on communique avec l'équipe pendant les transmissions et on se dit, lui, malheureusement, il passera pas le week-end. Donc le lundi, je rentre, j'arrive dans le service et en fait, je sais que la chambre 1, c'est sa chambre. Donc je passe devant, je saurai s'il est toujours là ou pas. Et là, miracle, je passe, il est là, je suis très très contente. Je vais le prendre en charge aujourd'hui, j'en suis très contente. Du coup, sur cette semaine-là, on voit que ça s'améliore. Et au bout de 2-3 semaines, moi, j'arrive dans l'après-midi, je rentre dans sa chambre et je vois qu'il est installé dans son lit, assis, avec son adaptable du coup devant lui, remonté de façon à ce qu'il puisse tenir une feuille blanche. Et il est en train de dessiner avec des crayons. En fait, sur sa feuille, il a fait plusieurs ronds. Et il est en train de dessiner différents types de fleurs de différentes couleurs. Il m'explique que justement, en fait, il dessine les différentes fleurs qu'il découpe par la suite et qu'après, il rassemble sur une seule feuille en faisant un jeu de relief pour faire un vrai bouquet de dessins de fleurs. Je rentre dans la chambre et je m'arrête parce que cette vision de le voir assis en train de dessiner, il a la main suffisamment stable pour ne pas trembler en dessinant. Et je me souviens que je me suis arrêtée, je l'ai regardé et c'est vraiment à ce moment-là, je pense, que j'ai senti qu'on était sur la bonne voie pour une rémission, pour une sortie, pour la fin vraiment de cette hospitalisation qui a duré déjà presque 3 mois. J'avais jamais vu un changement de comportement aussi impressionnant. Il revient tellement de loin, il a tellement progressé dans tout ça que c'est, je pense, une des évolutions les plus marquantes que j'ai depuis ma jeune carrière. Et ça redonne foi. Et par la suite, j'apprends que sa fille est venue le voir la veille où il a commencé à dessiner. Il a évoqué l'idée de dessiner et sa fille lui avait ramené tout ce qu'il fallait pour. Et c'est vrai que par la suite de ce dessin, d'avoir retrouvé sa fille, il est au téléphone régulièrement avec elle. Là, on se rend compte aussi que justement la présence de quelqu'un, le soutien moral, sa famille, ses proches, ça aide parce que justement sa fille le stimule. au fur et à mesure des jours, je le vois manger à une table, manger à un fauteuil, s'asseoir au fauteuil pour regarder la télé, se mettre à une table pour dessiner. Et on le voit avancer petit à petit et il y a cette fierté. On se dit, bah voilà, il en est là, quoi. Je découvre une personne parce que je connaissais un homme, un patient douloureux, mal en point, non autonome, totalement dépendant de nous, qui avait besoin d'aide pour respirer, qui avait besoin d'aide pour s'alimenter. Et là, je découvre un homme qui aime le dessin, qui a de la visite, qui sourit, qui fait les choses, qui essaye, qui est volontaire. Et voilà, ça y est, il a décidé que c'était fini, que là, il se sentait mieux et donc il va de l'avant. Bien sûr, il a toujours les chirurgiens qui le voient tous les matins pour être sûr que tout va bien, que ça avance bien. Et on a des retours positifs. On nous dit que c'est bien, on est sur la bonne lancée, que ça y est, ça va être bon. Et on nous dit, il n'y a plus que la kinésithérapie, il n'y a plus que la rééducation. Et après, il est sortant, il peut rentrer chez lui. Les jours passent et au fur et à mesure, on retire tout le matériel qu'il avait, les drainages, on le retire, les perfusions, on retire. Et voilà, il n'y a plus que mon petit patient, plus que lui, plus de fil, plus rien. Et voilà, il redevient autonome. On retrouve une personne. Et c'est vraiment quand il vient vers nous dans les couloirs, qu'il marche sans aide, sans se tenir au bord, qu'on se dit, ça y est, on y est, c'est le moment. Et voilà, là, on sait que ça y est, c'est la fin. En général, il n'y a pas de sortie le samedi et le dimanche. Donc, c'est une sortie le lundi. Et en général, c'est en début d'après-midi, vers 14h. Et moi, je sais que je travaille du matin. Donc, je vais le voir avant qu'il parte, mais je ne le verrai pas parti. Donc, je parle avec lui, je profite un maximum. Je dis, bon, vous voyez un peu d'où on est parti. On en est là. Et du coup, le lendemain, je reviens et il est plus là, quoi. Il y a la chambre 1 est vide et il n'y a plus personne. Et dans notre salle de pause, il y a un très, très beau dessin d'un bouquet de fleurs avec du relief, de fleurs de plein de couleurs avec signé son nom, avec de mille merci. Cette situation, c'est sur le début de carrière, clairement, parce que c'est un de mes tout premiers patients. Ça m'apporte beaucoup parce que déjà, c'est quelque chose que je savais, mais qui a été prouvé, c'est qu'un patient, son avenir n'est pas tout tracé. C'est pas parce qu'il a une intervention qui est bénigne que forcément ça va bien se passer, ou c'est pas parce qu'il a une grosse intervention que forcément ça va mal se passer. C'est vraiment patient dépendant. Et ça nous apprend aussi que, voilà, chaque patient est unique, en fait, et a une prise en charge qui est totalement unique. Il n'y a rien qui est prédéterminé. Il faut vraiment s'adapter par rapport à tout ce que nous, on peut voir et tout ce que le patient peut ressentir. Et voilà, faire ce chemin ensemble, en équipe. Et on n'est pas seul. Encore une fois, on n'est pas toujours seul. Donc, il y a les chirurgiens qui sont toujours derrière nous. Il y a les infirmières de l'autre secteur qui peuvent toujours aider quoi qu'il arrive. Donc, ouais, ça donne confiance et ça fait encore plus se sentir dans une équipe. Parce que, bah, on était tous regroupés autour de cette prise en charge du monsieur. On était tous ensemble. Je me suis pas sentie petite nouvelle arrivée, 21 ans, petite jeune ou quoi. Je me suis vraiment sentie intégrée à l'équipe et je faisais autant partie du corps soignant que n'importe qui d'autre. C'est aussi un beau moment parce que bah, moi qui me remettais en question, me dire est-ce que j'ai bien choisi, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, etc. Bah, ça conforte dans l'idée que oui, c'est ça, parce que ça a été dur, ça a été compliqué et au final, bah, ça s'est bien passé, le patient est quand même sorti. Il va bien, il est sorti, il va bien. Donc on accompagne le patient du début à la fin et voilà, je trouve que c'est un très très beau métier et je suis très contente de faire partie du corps soignant.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire d'Hospitalier, la série de podcasts de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, réalisée en partenariat avec Chérie FM. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et abonnez-vous pour être certain de ne pas manquer les prochaines histoires. Histoire d'Hospitalier est disponible sur le site et l'application Chérie FM, sur le site mnh.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.